Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 7 octobre 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Rwanda, la police dit avoir tué 19 terroristes près des frontières congolaises et ougandaises.
Au Mali, un casque bleu a été tué et 5 autres blessés hier dans 2 attaques contre la MINUSMA dans le nord-est et le centre du pays.
Ici aux États-Unis, révélation de l'existence d'un deuxième lanceur d'alerte dans l'affaire ukrainienne, à l'origine d'une procédure de destitution contre le président Donald Trump.
En Irak, 8 manifestants ont été tués hier dans de nouveaux affrontements avec les forces de l'ordre à Bagdad.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Rwanda, les forces de sécurité ont affirmé hier avoir tué ce qu'elles ont appelé 19 terroristes. Ils auraient mené dans la nuit de vendredi à samedi une attaque dans une région du nord du pays, proche des frontières congolaises et ougandaises. Le point avec Idriss Fall.
Les forces de sécurité rwandaises ont été en mesure de suivre ces terroristes, de tuer 19 d'entre eux, d'en arrêter 5 selon le communiqué de la police qui ne fournit pas plus de détails. Le bilan de l'attaque menée par des assaillants dans la nuit de vendredi à samedi à Kinigi, dans le district de Musanze, est passé de 8 à 14 morts. Certains blessés ont succombé à leurs blessures et toujours selon le communiqué de la police, parmi les morts figurent des résidents ordinaires qui ont été retrouvés dans leur maison et ont été attaqués avec des couteaux, des machettes et des pierres. Le Rwanda doit faire face à la menace de plusieurs groupes rebelles basés en RDC, dont les FDLR. Le mois dernier, l'armée congolaise a annoncé avoir tué Sylvestre Muda Chumura, commandant des rebelles FDLR, à quelques 60 km de Goma. La dernière attaque menée par des rebelles au Rwanda remonte à décembre 2018 et avait provoqué la mort de 2 soldats dans le district de Rubavu, au sud du district de Musanze, qui est connu pour le parc national des volcans et qui abrite des gorilles des montagnes.
En République démocratique du Congo, fuite d'acide dans l'entreprise Fungurume Mining a appris notre correspondant à Lubumbashi, Narval Mabila, auprès d'une source qui a requis l'anonymat. 29 personnes auraient été transportées à l'hôpital SOS, crachant du sang, selon notre correspondant qui va essayer d'en savoir plus pour nos prochaines éditions.
En République centrafricaine, près de 3000 armes de fabrication artisanale et des fusils d'assaut ont été brûlées samedi par la MINUSCA à Bouar, dans l'Ouest. Ces armes avaient été collectées dans le cadre du projet Réduction des violences communautaires de Bangui Freeman Sipila.
Ces armes transportées dans un camion Ben ont été entassées et incendiées publiquement dans le camp de la MINUSCA. Il s'agit précisément de 2981 armes de fabrication artisanale habituellement utilisées par des miliciens anti-Balaka et de 15 fusils d'assaut. L'opération de collecte basée sur un désarmement volontaire a permis également de récupérer 70 roquettes, 360 grenades et près de 10 000 munitions de guerre. Une véritable avancée vers la paix selon Pericles Gasperini, chef de bureau de la MINUSCA à Bouar.
Il faut remercier les rebelles qui ont décidé de choisir le bon chemin, le chemin de la paix, le chemin du développement. Je voudrais demander qu'on passe une minute de silence, en réfléchissant à ceux qui ont perdu la vie à travers ce conflit, et en même temps remercier ceux qui ont choisi le bon chemin pour donner un exemple aux autres qui sont encore pour arriver.
En 2018, une opération de ce genre, dans le cadre de la première phase du programme de réduction des violences communautaires, avait permis la destruction de plus de 2300 armes. Un monument pour la paix a été érigé sur les lieux de l'incinération au centre-ville de Bouar. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Au Mali, un casque bleu a été tué et 5 autres blessés hier dans 2 attaques contre la MINUSMA. C'est ce qu'a indiqué la force de l'ONU au Mali. Les casques bleus effectuaient une patrouille de sécurisation dimanche matin près d'Aguelhok, dans le nord-est, quand un engin a explosé au passage de leur véhicule, faisant un mort et 4 blessés. Ils ont par ailleurs riposté à une attaque d'éléments d'un groupe armé non identifié dimanche matin dans les environs de Bandiagara, dans le centre du pays.
L'Égypte a appelé à une médiation internationale au sujet de la construction d'un méga barrage sur le Nil par l'Éthiopie. D'après le Caire, les négociations tripartites au Soudan ont abouti à une impasse, Jean-Roger Bion.
Un communiqué du ministère égyptien de l'irrigation à l'issue des pourparlers à Khartoum appelle à l'implication d'une médiation internationale dans les négociations sur le barrage de la Renaissance. Ces négociations sont dans une impasse, a ajouté le ministère égyptien. La diplomatie éthiopienne, de son côté, a estimé que la demande de médiation du Caire est un déni injustifié des progrès réalisés. La présidence égyptienne a appelé les États-Unis à jouer un rôle actif pour résoudre ce différend. La Maison-Blanche avait exprimé vendredi son soutien aux négociations, appelant les trois pays à faire preuve de bonne volonté pour parvenir à un accord. Le barrage de la Renaissance est censé devenir la plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique. L'Égypte craint que sa construction, commencée en 2012, n'entraîne une réduction du débit du fleuve dont elle dépend totalement pour son approvisionnement en eau. L'absence d'accord entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte pourrait susciter un conflit sur le partage des eaux du Nil.
Toujours avec Jean-Roger Bion, cette fois-ci au Zimbabwe, le prix des carburants a augmenté de plus de 25%, une énième hausse des prix à la pompe depuis le début de l'année. Le pays est déjà confronté à une crise économique catastrophique et à une inflation galopante.
Dans un communiqué, l'agence zimbabwéenne de régulation de l'énergie, ZERA, a indiqué que le litre de diesel passait avec effet immédiat à 15,64 $ zimbabwéens, environ 1 US, et celui de l'essence à 14,97 $ zimbabwéens. Un plein de carburant représente plus du salaire mensuel d'un cuisinier ou agent d'entretien, près de la moitié du salaire mensuel d'un médecin du public. D'ailleurs, les médecins sont toujours en grève pour réclamer une meilleure paye. En janvier, le gouvernement avait déjà quasiment triplé les prix des carburants. Cette augmentation avait provoqué un mouvement de contestation violemment réprimé par les forces de l'ordre. Ruiné par le chômage et la dévaluation de sa devise, le Zimbabwe manque d'argent liquide, d'essence, d'électricité et d'eau. D'après le Fonds monétaire international, les prix ont augmenté de près de 300% en une année.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, un deuxième lanceur d'alerte est sorti du silence pour exprimer des préoccupations sur la conversation téléphonique que le président américain Donald Trump a eue en juillet avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Conversation à l'origine d'une procédure de destitution à la Chambre des représentants contrôlée par ses adversaires démocrates. Selon l'avocat Mark Zaid, qui représente les deux lanceurs d'alerte, celui qui vient de se manifester a des informations de première main.
Ce deuxième lanceur d'alerte collabore de manière substantielle, corrobore de manière substantielle, a dit l'avocat, la plainte du premier, selon laquelle M. Trump aurait tenté d'obtenir des informations compromettantes sur son possible rival démocrate en 2020, l'ancien vice-président Joe Biden, et aussi sur son fils Hunter. Le président américain a jusqu'ici soutenu que son premier accusateur n'avait que des informations de troisième main. Il a réagi hier à la nouvelle sur le deuxième lanceur d'alerte avec une série de tweets répétant des allégations non prouvées de corruption contre les Biden.
En Irak, 8 manifestants ont été tués hier lors de nouveaux affrontements avec les forces de l'ordre à Bagdad. Un mouvement inédit de contestation secoue le pays depuis mardi. Au moins 104 personnes ont été tuées et plus de 6000 autres blessées dans le pays. De nouveau, Idriss Fall.
Ces heurts ont éclaté hier dans le quartier de Sadr City, bastion du leadership Muqtada Sadr, qui a appelé vendredi à la démission du gouvernement. Des manifestants ont brûlé des pneus et les forces de l'ordre ont répondu par des tirs à balles réelles. La mission de l'ONU en Irak a exhorté toutes les parties à s'arrêter, disant 5 jours de morts et de blessés, il faut que ça cesse. Tôt hier matin, pour calmer la grogne sociale, le gouvernement d'Adel Abdel Mahdi, confronté à son plus grand défi depuis son entrée en fonction il y a un an, a annoncé 17 mesures sociales allant de l'aide au logement à l'allocation de pensions aux jeunes sans emploi. Le gouvernement a aussi annoncé avoir inscrit les personnes tuées depuis mardi sur la liste des martyrs, ouvrant la voie à des dédommagements pour leurs proches. Le mouvement de contestation dénonce la corruption, le chômage et la déliquescence des services publics dans un pays en pénurie chronique d'électricité et d'eau potable. Selon Transparency International, l'Irak est le 12e sur la liste des pays les plus corrompus au monde.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Minute Éco, Nanit Talani.
L'Angola veut construire 6 barrages pour un coût de 800 millions de dollars dans la province méridionale de Namibie. Ils permettront de stocker des quantités d'eau qui pourront être utilisées pendant la sécheresse. Les autorités espèrent lutter contre les pénuries d'eau qui poussent de nombreux habitants de la province à se déplacer vers d'autres régions. Les barrages serviront aussi à stimuler le développement agricole et industriel dans la province. La découverte de pétrole sur le permis du Safou au Gabon dépasse largement les attentes selon la société norvégienne Panoro Energy. L'agence Ecofin rapporte que le pétrole découvert est d'excellente qualité et les quantités de réserves récupérables sont estimées être entre 40 et 50 millions de barils. En Côte d'Ivoire, le déficit budgétaire a atteint 364 milliards de francs CFA au premier semestre de l'année en cours. Selon l'agence Ecofin, ce montant est en dessous des prévisions qui indiquaient un niveau de 427 milliards de francs CFA, soit un effort de contraction du déficit budgétaire de 63,2 milliards de francs CFA. Le financement de ce déficit et d'autres opérations a été effectué via un recours au marché monétaire et financier pour un montant de 988,4 milliards de francs CFA. Pour terminer, en RDC, le gouvernement va doter la Société de transport du Congo Transco de 440 nouveaux bus de marque Volvo pour améliorer la mobilité dans les principales villes du pays. En août dernier, Transco avait déjà réceptionné 8 nouveaux bus de la marque chinoise Zhongtong.
Les sports à présent avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Athlétisme avec l'épilogue hier des championnats du monde à Doha au Qatar.
Oui, et les États-Unis terminent en tête au tableau des médailles avec 29 au total, dont 14 en or. L'Afrique est classée deuxième grâce au Kenya qui a remporté au total 11 médailles, 5 en or, 2 en argent et 4 en bronze. Et puis l'Éthiopie, la deuxième nation africaine, a fini cinquième.
Football à présent avec le tournoi de l'UFOA à Thiès au Sénégal.
Et on connaît les affiches des demi-finales qui démarrent déjà demain. Ghana, Côte d'Ivoire et Sénégal-Mali. Les Aigles ont obtenu leur qualification hier grâce à leur succès 1-0 face à la Sierra Leone.
On fait à présent le point sur quelques championnats ouverture de la saison au Bénin.
Oui, la Ligue 1 a démarré hier à Porte Novo avec un seul match. Dragon de Lomé, Dynamo de Parakou, champion de la Ligue 2. À la fin, les deux équipes ont fait jeu égal, un but partout. Un match qui laisse des regrets selon l'entraîneur togolais du club de la capitale. On écoute Wadja Lantam.
D'autant plus que l'adversaire a été réduit à 10 et il fallait qu'on concrétise nos occasions. Malheureusement, les attaquants ont poussé par la maladresse. Aujourd'hui, on a eu un très bon jeu. Même si l'adversaire en face a essayé de jouer le chrono, ça arrive dans n'importe quel match. Donc, on ne va pas survoler la face. Il reste encore du boulot à faire, surtout à la finition. Et tout ça, on a encore 2 semaines pour le préparer.
Satisfaction côté Dynamo de Parakou, surtout quand l'adversaire s'appelle Dragon. Adam Taïrou.
Jouer face au Dragon, rentrer avec un point, c'est qu'on a gagné le match face à une équipe des Dragons.
Justement, on a vu votre équipe jouer quelque peu le chrono. Le spectacle était quelque peu désobligeant.
Ça fait partie du jeu, monsieur le journaliste. Même en Europe, on le voit.
La suite de cette première journée le week-end prochain avec de belles affiches, notamment Énergie ESAE, UPI ONM US Kraké ou encore AS Tonnerre de Boïcon Aspak. Et puis le champion en titre Buff du Bogou qui va se déplacer chez son dauphin Béké FC de Bébéréké.
Première journée également au Togo et on a eu droit à 4 matchs.
Et le champion en titre, l'ASK, a été accroché 1-1 à Nantes par Ange FC. Pour le reste, coup de victoire 1-0 de Sara et du Nisport, respectivement contre Koroki et Semassi. L'AS Togo Port battu 1-2 à domicile par l'AS OTR. On jouait aussi hier en RDC et service minimum pour Darin Club de Moteba Pembe face à Dauphin Noir. En ces matchs, le club Imana est classé 3e avec 13 points. Lumumbashi Sport, vainqueur 1-0 de FC Lupopo, prend la première place avec 17 points en 11 matchs joués. Et puis, fin hier de la 3e journée en Égypte, Zamalek, tenu en échec à domicile par Al Mars, retrograde à la 4e place avec 7 points derrière Al Ahly leader avec 9 points.
Rugby avec la Coupe du Monde au Japon, la Namibie largement battue par la Nouvelle-Zélande.
L'un des représentants africains dans cette compétition n'a pas résisté face au double champion du monde en titre, largement vainqueur soit 11-9. La Namibie, dernière de la poule B, est éliminée de la course au quart de finale. Par contre, l'Afrique du Sud, qui joue demain le Canada, en cas de victoire, permettra à l'Afrique d'avoir un représentant au second tour.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Cameroun, Maurice Kamto est sorti de prison. Le principal opposant au président Paul Biya a été libéré samedi après 9 mois d'incarcération et ce, sur décision de M. Biya lui-même. Il a décidé d'arrêter les poursuites à l'encontre de M. Kamto et de plusieurs de ses partisans. Yacouba Ouédraogo a joint à Yaoundé l'un de leurs avocats, Michel Tchalé.
Pour le cas du professeur Maurice Kamto, ses alliés, il s'agit de ce qu'on appelle l'arrêt des poursuites. Parce que voyez-vous, le professeur était poursuivi devant un tribunal d'exception, qui est un tribunal militaire. Et là-bas, contrairement au tribunal de droit commun, par exemple, au tribunal militaire, c'est le président de la République, chef suprême des armées, qui donne le là. Il a décidé à un moment de poursuivre et il a décidé donc d'arrêter les poursuites. C'est sur ce fondement-là que Maurice Kamto, les alliés et les autres sont sortis de prison tout à l'heure.
En plus de Maurice Kamto, qui sont ceux qui sont concernés par cette remise en liberté-là?
Tous ceux qui étaient comparsés devant le tribunal militaire en relation avec la crise post-électorale. C'est-à-dire à peu près 92 personnes, pour être exact avec vous.
Est-ce que cet arrêt de poursuite décidé par le président Biya signifie tout simplement que toutes ces personnes qui étaient en prison sont blanchies?
Elles sont blanchies, il n'y a pas une décision de justice. Mais sauf que vous voyez, il y a une petite ambiguïté. Parce qu'ils disent arrêt de poursuite, mais si, ils peuvent les reprendre à tout moment, au cas où il y a un fait nouveau éventuellement. Mais au stade où nous sommes, il n'y a aucune décision de condamnation qui est intervenue contre elles.
Et donc désormais, Maurice Kamto et les autres sont libres de leur mouvement et peuvent reprendre leurs activités politiques notamment?
Tout à fait. Et voyez-vous, c'est pour ça que nous, le collectif, nous nous sommes échignés pendant 8 mois à aller de procédure en procédure pour retarder au maximum la phase de jugement. Parce que nous savions que c'était un dossier politique qui allait se dénouer de manière politique. Parce que vous voyez, si on était rentré en voie de condamnation contre eux, alors on aurait parlé plutôt de grâce. Et là, ça pouvait être compromettant pour Maurice Kamto et les autres qui ont quand même des ambitions politiques.
On sait que bien avant ça, le président Biya avait décidé de la remise en liberté de 333 personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone. Est-ce que ces mesures d'apaisement là vont contribuer à ramener, j'allais dire, la stabilité au Cameroun?
Comme vous le savez, les têtes de proue restent détenues. Il s'agit de M. Aoutabé et compagnie qui ont été condamnés à la perpétuité. Donc, je ne sais pas si ça va totalement décrisper, mais ça va quand même décrisper. Mais ça aurait été encore plus évident si M. Aoutabé et autres avaient subi le même sort.
Vendredi, c'est la clôture du Grand Dialogue National. Samedi, Maurice Kamto et ses partisans qui étaient emprisonnés sont remis en liberté. Est-ce que vous pensez que cet arrêt des poursuites décidé par le président Biya était à faire l'objet de discussions au sein du Grand Dialogue National?
Je ne pense pas qu'on ait pu organiser une messe comme celle-là, appelée Dialogue National, sans qu'on ne parle quand même de Kamto. Parce que, écoutez, depuis plus de 8 mois, on ne vit, on est resté au Cameroun que de faire Kamto. Parce que vous savez, comme moi, si on s'en tient qu'aux chiffres officiels, il est à mon deuxième de la présidentielle du 7 octobre. Vous comprenez donc qu'on ne peut pas organiser un dialogue qui vise à peser et ne pas parler de cela. Mais maintenant, est-ce que c'est les incidences du dialogue qui ont permis qu'il soit libéré? Je ne pense pas. J'ai l'impression que c'est des mesures qui avaient été apprêtées pour accompagner le dialogue.
Maurice Kamto est maintenant libre. Quelle activité politique pourrait-il mener dans l'immédiat selon vous?
Je pense qu'il va se retirer certainement dans sa famille pour se ressourcer un peu. Mais naturellement, puisqu'on va aller bientôt aux élections municipales et législatives, il va bien falloir qu'il se redéploie sur le terrain. Il y a eu un regain, un engouement certain pour ce parti du fait, n'est-ce pas, de l'embastillement de son leader.
Maître Michel Tchalé du collectif des avocats de Maurice Kamto, joint à Yaoundé.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En République centrafricaine, le pays est partagé entre l'inquiétude et l'optimisme quant à l'organisation des Journées mondiales de l'alimentation et de la femme rurale à Bambari. À une semaine de ces festivités, la situation sécuritaire soulève encore des interrogations, mais le gouvernement se veut rassurant. Précision de notre correspondant sur place, Freeman Sipila.
Un autre pari risqué selon plusieurs observateurs de la vie politique en Centrafrique. Pourquoi pari risqué? En janvier 2019, la célébration de ces deux journées en différé à Bambari avait été sabotée par des hommes armés de l'UPC, provoquant une vague de violences meurtrières dans la ville. Le gouvernement obligé d'annuler les festivités a maintenu la célébration pour ce mois d'octobre toujours à Bambari. Malgré l'inquiétude qui plane au sujet du choix de cette ville, encore sous influence l'influence des hommes armés de l'UPC, les organisateurs affirment que les préparatifs sont à plus de 80%. Saint-Pierre Mahamat, président du comité d'organisation.
Je peux vous dire que nous sommes à plus de 85% de réalisation de ces activités-là. Concernant les activités au niveau de Bambari, vraiment, il y a un engouement de la population qui attend vraiment la célébration de ces journées-là.
Le 30 septembre dernier, Bambari a été secoué par des crépitements d'armes, plongeant les habitants dans la crainte d'un regain de tension. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, minimise les faits et appelle les groupes armés au respect de leurs engagements pris dans le cadre de l'accord de paix du 6 février. Ange-Maxime Kazagui.
Le gouvernement est déterminé à aller donc fêter cette Jima à Bambari et toutes les dispositions sont prises. Maintenant, il y a eu d'une part des incidents qui ont été dus à un braquage, hein, je crois que c'était clair. Donc, je ne sais plus si c'était dans le quartier Adji ou Bornou, il y a eu un braquage qui a mené à des tirs entendu de coups de feu et cela a été notable et a été noté. Et c'est pour moi l'occasion de réitérer au nom du gouvernement le rappel à l'ordre de tous ceux qui sont des signataires ou des démembrements des signataires des accords de Bangui afin que chacun soutienne sa parole et la signature qui est la leur.
Alors que ces grandes festivités se préparent dans le centre de Bambari, une partie de la région a été le théâtre début octobre de violences meurtrières impliquant des combattants de l'UPC et un groupe d'autodéfense locale non loin de la ville de Kwangu. Pour rassurer les centrafricains et dissiper la peur, la ministre de la Défense, Marie-Noël Koyara, brise le silence.
Vous savez bien que la GMA, avant on appelait ça aussi les commissaires agricoles chez nous et tout, c'est une occasion que le gouvernement donne pour reconstruire les régions. Bambari, qui a été choisie comme ville sans armes, doit relancer son développement. Et c'est dommage ce qui s'est passé l'année dernière, mais je vous dis que la sécurité des centrafricains devrait être assurée dans toutes nos villes, dans toutes nos provinces, dans le pays d'une manière générale. Donc nous ne lions pas la sécurité seulement à une activité. Parce que c'est comme si on limitait nos actions, alors que c'est une obligation pour nous d'assurer cette mission.
Chaque année, une ville de la République centrafricaine est choisie pour abriter la célébration de la Journée mondiale de la femme rurale et celle de l'alimentation, célébrée tous les 15 et 16 octobre. C'est la deuxième fois consécutive que la ville de Bambari, contrôlée en partie par des hommes armés, est choisie. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Au Mali, l'armée malienne, comme vous le savez, a essuyé ses plus lourdes pertes depuis des années des mains des djihadistes dans deux attaques lundi et mardi dernier à Boulkessi et Mondoro dans le centre près de la frontière du Burkina Faso. 38 soldats ont été tués selon un bilan gouvernemental. Un hommage leur a été rendu dimanche à Bamako. Kassim Traoré fait le point.
Attaqué le 30 septembre dernier, c'est le 3 octobre que les forces armées maliennes FAMA ont pu récupérer les camps Fort 11 de Boulkessi. Colonel-major Oumar Diara, commandant du théâtre des opérations du centre.
Le 4 octobre, le bilan est le suivant pour les forces armées. Les 38 morts, 16 blessés, tous évacués et pris en charge. Il y a 17 parachutistes encore engagés sur le Fort 11 à Boulkessi et des portés disparus. Il y a le ministre de la Défense et le chef d'état-major général adjoint des armées ont effectué une visite à Boulkessi, au niveau du Fort 11, pour se rendre auprès des hommes, se recueillir sur les tombes et confirmer le plein contrôle des FAMA sur le Fort 11.
Présent aux côtés des soldats maliens, le ministre de la Défense et des anciens combattants a participé au combat de libération du Fort 11 à Boulkessi. Général Ibrahim Daïrou Dambélé.
Il y a 8 maintenant qui sont à l'infirmerie ici qu'on vient de visiter, qui sont malades. Les blessés qu'on a vus à Boulkessi, ils vont bientôt rejoindre leur famille. Et déjà, il y a des éléments qui ont pris des dispositions. Là-bas. Après 5 mois, l'ennemi n'a pu enregistrer un coup, mais malgré ce coup dur, nous devons serrer la ceinture. C'est un combat dur, difficile, mais face à cette guerre-là, nous devons rester unis, ensemble, derrière le chef. C'est dans ça seulement que nous allons gagner.
Après la double attaque contre le camp des FAMA, les partis politiques, les associations ont condamné ces attaques. Mamadou Djamoutani, secrétaire général du Haut Conseil islamique du Mali.
Le Haut Conseil islamique du Mali condamne avec la dernière énergie ces attaques
attaque qui plonge une fois de plus notre pays dans le deuil. Il prie pour le repos de l'âme des victimes et pour un prompt rétablissement aux blessés. Le Haut Conseil islamique du Mali observe que la répétition de telles attaques et leur grande similitude constituent des preuves que le gouvernement du Mali a obligation d'améliorer sa politique d'anticipation et de prévention afin de réduire au maximum ses réactions a posteriori.
Le président Ibeka, tout en s'inclinant devant la mémoire des soldats tombés, ne veut pas désespérer. Il souhaite le renforcement de la capacité de riposte des forces en présence.
Notamment par le fondement du statut de la mission de stabilisation au Mali, dont chacun sait aujourd'hui qu'elle fera une rude de tâche, tant on lui a confié une mission dont elle n'a pas les moyens. Donc l'inscription, enfin au chapitre 7, est de demande aujourd'hui presque universelle. Et j'espère que l'on y viendra, que le Conseil de sécurité accédera enfin à cette demande, qui est faite depuis longtemps par les pays du G5 Sahel.
Hier matin, au camp Para de Dikoroni, le premier ministre malien a participé à la cérémonie de prière en hommage aux soldats tombés à Boulkessi. Docteur Boubou Cissé.
Je suis venu ici au nom du président de la République, le chef suprême des armées. Il m'a demandé de venir à la rencontre des familles et des camarades endeuillés et surtout de partager leur peine et puis leur tristesse. Ce qui s'est passé à Boulkessi fait très mal. Ce qui s'est passé doit nous rappeler aussi que nous devons tout faire pour nous adapter aux méthodes de l'ennemi. Nous sommes face à une guerre asymétrique. L'ennemi agit par surprise.
L'attaque de Boulkessi a fait 38 morts. Elle est la plus meurtrière pour l'armée malienne depuis au moins 5 ans. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, la ville de Dori, principale ville de la région du Sahel à plus de 260 kilomètres de Ouagadougou, est la seule ville qui ne connaît pas d'attaque terroriste, mais les attaques incessantes dans le reste du Sahel et l'afflux de déplacés inquiètent les habitants de Dori. Notre correspondant au Burkina Faso, Lamine Traoré, s'est rendu au Sahel. Son reportage.
Ville de Dori. Ici, on vague tranquillement ses occupations. Les attaques sont quasi quotidiennes dans les localités environnantes. À Dori, on peut encore respirer, vivre. Mais le danger n'est pas vraiment loin. Et à Dori, on le sait.
Nous sommes sous le choc et nous avons des ressentiments et à la psychose qui est là.
Boubacar Diko, un habitant de Dori.
Il faut redoubler d'efforts quant à la veille. Il ne faut surtout pas baisser la garde, ne sait-on jamais. Il faut redoubler d'efforts dans la vigilance.
Si tout le monde a été touché, je me suis dit qu'on nous réserve pour la fin. Donc ça fait vraiment peur là où nous sommes.
Boubacar Cissé est le deuxième adjoint au maire de Dori.
On se dit que s'ils ne sont pas encore rentrés chez nous, c'est qu'ils attendent peut-être une autre occasion. Sinon, c'est pas qu'ils ne peuvent pas le faire.
Même si la ville n'est pas attaquée, elle encaisse les effets collatéraux de cette guerre des localités voisines. Les populations sont obligées de fuir et se réfugier à Dori.
Ce que j'ai à dire au gouvernement, c'est de faire un grand effort pour que le problème qui est arrivé à nos voisins ne puisse nous arriver aujourd'hui.
Rukia Tasso est la présidente d'une association féminine d'une trentaine de femmes. Elle accueille de nombreux déplacés d'Arbinda.
Actuellement, nous, même ce que nous vivons là, on ne peut pas dire que ça dépasse ce qu'ils vivent parce qu'eux, ils ont fui. Mais ce que nous vivons aujourd'hui est très, très crucial. Nous n'arrivons pas à manger à notre faim. Nous n'arrivons pas à boire à notre faim. Et on ne sait pas où on va, nous aussi.
Les autorités locales demandent la coopération entre populations et forces de défense et de sécurité. Le deuxième adjoint au maire de Dori.
C'est des sensibilisations et inciter les gens à la méfiance. Parce que c'est un système qui est en train d'avancer. Et tout le monde est au courant de ça maintenant. Donc nous demandons toujours aux gens d'être prudents. Et surtout pour les déplacements. Donc il y a des rencontres qui se font par des organisations humanitaires ici qui incitent les gens à coopérer avec les FDS pour qu'on puisse vraiment avoir la fluidité entre la communication des FDS et les populations. Ça va faciliter un peu les renseignements, ça va faciliter aussi beaucoup de choses entre eux. Au gouvernement, c'est de disponibilité assez de militaires dans la zone pour qu'à tout moment qu'on a besoin d'eux, qu'on puisse les avoir pour régler les problèmes des populations le plus rapidement possible.
Dori reste donc une ville en alerte maximale. La ville rescapée, qui n'est pas encore tombée dans la main des terroristes. La seule grande ville du Sahel qui ne connaît pas les attaques terroristes. Lamine Traoré, Dori, VOA Afrique.
Le Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seroudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.